C'était I Know de Irma sur Radio U 101.1. Tout de suite, on est avec Stéphane Roudot, tête de liste d'une nouvelle histoire pour Brest. Bonjour monsieur Roudot.
Bonjour.
Alors, vu que Radio U, c'est la radio des étudiants, on va justement parler un petit peu de leurs conditions. Alors, d'après une enquête sortie par la FAGE, Fédération des associations générales étudiantes, sortie le 24 février, un étudiant sur trois est mal logé et le loyer mensuel moyen en France est de 491 euros. Quel message souhaitez-vous leur adresser concernant le logement à Brest ?
Il y a beaucoup de travail et que les élus doivent s'accaparer complètement ces questions. On a vu un avant et un après Covid avec des capacités d'accueil, notamment chez l'habitant, qui ont disparu au fil du temps. Une nécessité de construire des résidences sociales universitaires. C'est ce que je fais d'ailleurs. Je suis actuellement maire de Gouesnou et nous avons une résidence en construction qui va être livrée au mois de septembre pour 154 chambres et 180 étudiants. Et c'est un travail de longue haleine puisque le projet que je viens de citer, c'est quasiment 10 ans de travail. Donc, on a besoin de s'accaparer complètement ces questions, d'avoir des logiques de mobilisation de l'ensemble des acteurs. Je pense notamment au CROUS, bien entendu, mais aussi le bailleur social ici qui s'appelle Brest Métropole Habitat, qui a une capacité, qui est la sienne, à venir travailler sur cette question du logement. Et deuxième point, nous avons aussi la nécessité, collectivité, avec des acteurs associatifs, de venir proposer des appartements plus grands en colocation et d'avoir des associations gestionnaires, ce qui permet aussi d'avoir plus facilement une rotation, puisqu'on sait qu'un étudiant ne reste pas forcément sur toute la durée de ses études au même lieu. Il peut changer d'université, il peut partir sur des stages, il peut partir ensuite pour un parcours professionnel et d'avoir des associations qui accompagnent la collectivité dans cette dimension. C'est justement une corde de plus à l'arc du logement.
Et qui pourrait aider aussi, j'y pense, aux étudiants en alternance. Il y en a beaucoup qui recherchent des alternances et c'est la complexité de trouver un logement qui, parfois, ton alternance, tu la trouves dans une autre ville et tu te retrouves à payer deux loyers.
Et nous avons aussi, si vous me permettez, la question des jeunes actifs, des jeunes travailleurs, qui finalement n'est pas si loin en termes de préoccupations de celle des étudiants. Et quand je parle de la mobilisation des acteurs, c'est cela aussi. Être en capacité de voir comment on combine la problématique jeunes travailleurs et étudiants sur une mise à disposition de locaux. D'ailleurs, dans notre projet, nous avons la volonté de créer des logements en centre-ville dans les locaux du square Marc-Sandier, à proximité de Dialogue. C'est une cité administrative aujourd'hui qui va être, entre guillemets, vendue par l'État. Et dans notre projet, nous avons la réhabilitation des étages, le rez-de-chaussée plutôt sur des logiques de commerce, ce qui permet d'avoir le commerce et activités tertiaires, d'avoir une mixité d'usages qui permet un financement plus simple ensuite des opérations de cette envergure, qui sont là aussi ni simples et surtout très lourdes d'un point de vue financier.
Alors cette crise du logement, elle est bien sûr directement reliée à la baisse du niveau de vie des étudiants qui sont de plus en plus précaires. Ça pose d'autres soucis, notamment par exemple l'accès à une alimentation suffisante et saine. Comment comptez-vous les aider sur ce point ?
Nous avons besoin de poser véritablement un diagnostic complet de la précarité étudiante. On parle du logement à l'instant, on parle de l'alimentaire, on parle aussi tout simplement des conditions de vie, des fournitures, de l'accès à un ordinateur, ce genre de questions extrêmement, extrêmement lourdes. Donc c'est de poser un diagnostic avec les fédérations, les étudiants, avec les associations elles-mêmes, pour venir bien calibrer la réponse des collectivités. Il y a effectivement la ville, mais nous avons à entraîner aussi d'autres collectivités, la région, le département du Finistère, et de proposer une solution groupée avec les acteurs universitaires. Et dans cette précarité étudiante, je vois le travail formidable des associations qui est aujourd'hui mené, mais qui manque parfois du fil conducteur des élus et de la collectivité. On ne veut pas remplacer cette liberté associative, hein, c'est pas absolument pas. C'est le projet associatif qui est derrière, mais que la collectivité puisse abonder, venir recenser qui peut faire quoi et à quel endroit, puisqu'on remarque une territorialisation aussi de l'action de ces associations. Elles ne sont pas toutes partout. On a les deux grands sites universitaires ici, brestois. C'est de voir à quel moment et comment les associations sont en capacité, parce que financées par les collectivités, peuvent justement lutter elles-mêmes contre la précarité étudiante.
Donc les accompagner financièrement pour qu'elles puissent continuer
Exactement, et aussi de voir concrètement quel type d'autres dispositions nous pouvons mener. On a la volonté de créer dans notre projet une fondation avec un périmètre assez large, essentiellement quand même tournée vers la culture et le sport, mais avec une dimension aussi d'accompagnement des étudiants dans le financement d'activités universitaires, de masters, de bourses complémentaires. Et cette fondation permet de récolter tout simplement des fonds privés à répartir ensuite. Et cette fondation ne serait pas présidée par les élus eux-mêmes, mais par les acteurs du sport, de la culture et du monde universitaire. Alors on a un besoin réel de calibrer cette proposition au-delà de l'idée. Il y a besoin de venir l'étalonner et de continuer à travailler et de voir concrètement comment on peut récupérer des fonds complémentaires, parce que les collectivités ne peuvent pas tout. On a la volonté, hein, elle est là, elle est forte, mais d'aller capter aussi des fonds pour accompagner la culture, le sport et le monde universitaire d'une certaine manière, ça serait, je pense, une idée très forte pour le territoire.
Alors la baisse du niveau de vie des étudiants est plus globale, elle entraîne aussi des problèmes liés à la santé mentale. On sait aujourd'hui que les étudiants, mais aussi les jeunes plus largement, sont en souffrance. Ils ont de grandes difficultés à se projeter dans l'avenir. Est-ce que vous avez prévu des actions pour les accompagner ?
On voit là aussi un avant et un après Covid. La question de la santé mentale, elle est permanente déjà, elle existe, elle préexiste. Mais les confinements sont venus fracasser en fait la confiance, les aspirations, la façon dont on voit tout simplement la façon dont on mène sa vie. Puis il y a un côté extrêmement anxiogène aujourd'hui dans l'actualité avec la crise climatique, avec la peur du lendemain, les conflits un peu partout. Les collectivités, là aussi, avec les acteurs de santé, doivent prendre à bras le corps la question de la santé mentale, de l'accompagnement, de l'intervention de psychologues et de la médecine générale aussi, hein, puisqu'on a différentes options à proposer, d'avoir un meilleur suivi, d'avoir un guichet qui est en capacité d'orienter les étudiants dans ces problématiques-là. Et je reviens sur un point, je pense vraiment que le médecin généraliste et dans la relation avec le patient a besoin d'accompagner en premier niveau, c'est ça que je veux dire, en premier niveau, on a besoin de nous appuyer sur la médecine de ville. C'est les meilleurs observateurs. Quand un étudiant va chez son médecin, il faut qu'il ait la capacité d'en parler librement. C'est là que ça se passe. Et que le médecin puisse être en capacité de proposer là, pour le coup, un parcours d'accompagnement avec d'autres types de professions. Et pour le coup, c'est une nécessité d'information que la collectivité doit porter de façon prioritaire à l'égard des étudiants.
Donc, alors là, je me permets de rebondir pour nos auditeurs et nos auditrices quand vous dites que ça doit passer par les médecins généralistes parce qu'ils voient tout le monde. Et ça serait de leur. Qu'est-ce que vous leur demanderiez concrètement pour plus imaginer les choses ?
Nous pensons que les acteurs de santé de ville sont de très bons observateurs, tout simplement, de la société, des problématiques sociales et de santé. Nous avons besoin de bâtir une relation de confiance aujourd'hui pleine et entière avec ces acteurs premiers. Et c'est donc finalement d'être en capacité pour la collectivité de proposer des outils, de bien informer et d'inviter qui que ce soit, pas simplement les étudiants, dès lors qu'il y a une problématique de nature santé mentale, d'en parler en premier niveau à son médecin généraliste. Je pense que c'est là qu'on peut déclencher autre chose. Alors, je suis tout à fait lucide sur le fait que la précarité étudiante amène aussi certains étudiants à repousser le passage devant le médecin généraliste. Donc, les limites de l'exercice, je les ai à l'esprit. Hein. Et on a besoin, pour le coup, de mieux communiquer, d'être en capacité aussi de financer un certain nombre d'actions. Je vois que la collectivité, aujourd'hui, Ville de Brest, a fait des choses. Il faut probablement aller plus loin. On a les lundis de la santé qui ont été mis en œuvre, mais qui attire au final dans les conférences un public déjà intéressé. Et c'est la logique d'aller vers le monde étudiant qu'il faut désormais franchir. La collectivité propose des outils, notamment tout le tissu associatif et tous les acteurs universitaires, par des campagnes de communication qui permettraient justement d'avoir des outils en matière de santé mentale.
J'en profite pour faire une petite aparté pour Radio U. J'invite les auditeurs et les auditrices si la question... les intéresse à aller écouter l'émission Synopsis de Radio U, qui travaille notamment autour de la santé mentale et qui a pour but de vous donner toutes les ressources possibles du territoire brestois en termes de santé mentale sur plein de thématiques différentes. Et donc n'hésitez pas à aller voir leurs émissions sur le site de Radio U. Ça peut vous donner pas mal d'informations à ce sujet. Voilà, c'est une petite aparté. Je propose qu'on passe sur le prochain point, la politique culturelle. On parle du tissu associatif, hein, notamment depuis tout à l'heure. Le tissu associatif, on le voit, il joue un rôle local essentiel. Comment entendez-vous garantir à la fois leur liberté d'action et les soutenir financièrement et matériellement? Il y a un peu de questions dans la même.
Il y a... En réalité, je pense deux grandes dimensions à l'accompagnement culturel. Il y a déjà la pratique culturelle elle-même, et puis il y a la création culturelle. Ce sont deux segments extrêmement importants dans notre esprit, et d'être en capacité, tout simplement, de préserver déjà la création culturelle, d'y avoir aucune intervention politique, c'est important de le rappeler, d'être dans des logiques de subventionnement à l'égard de l'ensemble des acteurs du monde culturel d'un côté, et puis sur la pratique culturelle, c'est d'être en capacité, là pour le coup, d'avoir des mises à disposition d'équipements, d'être dans des logiques d'accompagnement, de matériel, quelle que soit la dimension. On a la volonté, je prends un exemple concret, de doter la collectivité, la ville de Brest, d'un parc de matériel plus important, et là pour le coup, on s'intéresse aux musiques actuelles, on s'intéresse au théâtre, on s'intéresse aux arts et aux spectacles, et d'avoir cette capacité à mettre à disposition des associations, quelles qu'elles soient d'ailleurs, hein, ce matériel permet justement d'organiser de l'événementiel d'un côté, de densifier la dimension pratique. Et si je reviens à la création culturelle elle-même, notamment artistes et compagnies, c'est de favoriser l'émergence de bourses d'accompagnement à la création, puisqu'on sait que quand les artistes ne se produisent pas, et donc dès lors qu'ils sont en construction de leur projet, ils n'ont pas forcément les fonds pour aller au bout. Notre volonté, c'est de les accompagner par des enveloppes dédiées pour qu'ils aillent jusqu'au bout de ce projet. Et de pousser quartier par quartier, puisque le lien entre la culture, le monde universitaire et le côté territorial des choses, notamment dans les quartiers, c'est d'aller vers des statuts d'artistes associés qui permettraient justement d'avoir une sorte d'immersion du monde culturel dans les quartiers et de proposer pour le coup des médiations à l'égard de la population, les jeunes, les moins jeunes, les seniors.
Très bien.
Alors les acteurs culturels expriment des inquiétudes quant à l'avenir de la création. Comment est-ce que vous envisagez d'encourager et de soutenir la vie culturelle locale? Donc on peut penser à des associations comme la mission locale, le planning familial ou encore les radios associatives.
Là, pour le coup, c'est une question intéressée, c'est ça? Alors, nous sommes sur une sanctuarisation des budgets. C'est-à-dire qu'on ne va pas révolutionner des choses qui fonctionnent. On ne va pas casser des relations de confiance sur lesquelles il y a des conventions. On a plutôt à interroger de façon très ouverte la façon dont le projet de chaque structure veut évoluer. Et comment la ville, ou la métropole, pour le coup la ville, peut mieux accompagner en fait l'ensemble de ces acteurs avec des subventions socles qui font l'objet d'une convention dont la durée est à définir segment par segment. Et nous avons la volonté de pousser les subventions, de pousser les aides dans trois dimensions plus importantes. C'est-à-dire qu'on respecte le projet associatif et on demande à ces acteurs associatifs s'ils adhèrent à trois grandes trajectoires que la ville veut porter. La première, c'est l'inclusion. L'inclusion et notamment les personnes en situation de handicap. Dès lors qu'une association porte dans son projet associatif quelque chose dans cette dimension d'inclusion, on vient pousser la subvention socle de façon plus importante, c'est-à-dire on la bonifie. Le deuxième volet tourne autour des transitions et notamment l'environnement, la biodiversité, le changement climatique. Dès lors qu'un acteur associatif pousse lui aussi dans son projet associatif quelque chose qui tourne autour de ça, on doit être en capacité de bonifier la participation de la collectivité. Et enfin, le troisième volet, puisqu'il y en a trois, c'est tout ce qui concourt à une meilleure égalité femmes-hommes, égalité filles-garçons, dès lors qu'on est sur des associations qui interviennent sur des secteurs jeunesse, d'être en capacité de promouvoir des initiatives contre le harcèlement, sur la promotion et l'accompagnement politique où on prend cette égalité à bras le corps, eh bien là aussi, la collectivité doit être en capacité de bonifier. Donc ça, ce sont des choses qu'on veut proposer. Et il est entendu que toutes les propositions sont plutôt à prendre sous l'angle de trajectoire et pas de projet ferme et définitif. On est là pour accompagner. Et la ville, une collectivité, elle est là pour accompagner. Elle n'est pas là pour faire la place. Et notamment le secteur associatif qui, aujourd'hui, est extrêmement dense sur la ville de Brest et sur la métropole plus largement. On a besoin de valoriser tout ça, de valoriser aussi l'action bénévole, de favoriser les échanges et les passerelles. Donc la ville, elle est un peu un carrefour qui vient promouvoir cette liberté associative et de l'accompagner.
Très bien. Parce qu'aujourd'hui, on le voit avec le mouvement associatif de Bretagne, c'est une situation générale en France des associations qui sont en difficulté financière pour pouvoir continuer à mener à bien leur mission. Et donc c'est pour ça que ça nous tient à cœur de poser ces questions ici à Radio U, de pouvoir voir comment, dans un avenir municipal, elles peuvent se projeter. Et je sais que c'est des questions qui intéressent nos auditeurs et nos auditrices en tant qu'association. Je propose qu'on passe à la suite avec le volet éducation et numérique. Je te laisse prendre la main, Mayouen.
Alors, quelles actions comptez-vous entreprendre pour renforcer les moyens des écoles, que ce soit améliorer les infrastructures ou soutenir les équipes éducatives?
Il y a plusieurs questions dans votre question.
Oui. déjà, peut-être qu'on peut...
je vais y répondre quand même.
Ok.
Allez-y.
Mais l'école... C'est le lieu de tous les possibles. C'est le lieu des apprentissages, c'est le lieu des rencontres, c'est le lieu des souvenirs. L'école, dans notre projet, a une place extrêmement importante. Notre projet n'a pas de grande dimension. On ne veut pas d'un nouveau projet de tramway. Nous ne portons pas la création de nouveaux grands équipements. Donc, pas de projet à plusieurs centaines de millions d'euros d'un côté pour les mobilités, de l'autre pour... des équipements métropolitains qui existent déjà et ce tissu fonctionne bien. Ce qui fait que l'ensemble des marges de manœuvre budgétaires de la ville et de la métropole, nous voulons le mettre en proximité. Nous voulons rénover l'ensemble des bâtiments municipaux et métropolitains. C'est long, c'est quelque chose d'extrêmement lourd, on en a conscience, mais le temps de la proximité est venu. Je pense aux écoles, je pense aux crèches. Je pense aux patros, aux centres sociaux, aux gymnases, aux salles culturelles, aux piscines. À nous de poser un diagnostic, là aussi, avec les usagers, avec les acteurs de chaque bâtiment, de porter cette rénovation dans des logiques réglementaires, énergétiques, de confort, d'agrandissement. Et c'est ce que nous voulons faire aussi pour les écoles, le périscolaire, les crèches, l'ensemble des dimensions et des compétences de la collectivité. Une fois qu'on a fait ça, nous avons besoin de travailler, puisque vous m'interrogez sur l'école, on a besoin de travailler ce qu'on appelle le projet périscolaire. Donc le périscolaire, c'est plus vulgairement ou familièrement dit, c'est la garderie du soir, du matin, le mercredi, les centres de loisirs, les petites vacances, les grandes vacances. Là, on veut écrire un projet périscolaire avec les acteurs eux-mêmes qui interviennent dans ces actions. Première chose que nous voulons faire, c'est pousser l'accueil périscolaire jusqu'à 19h et pas 18h30. Aujourd'hui, c'est 18h30 et nous, on propose 19h. Parce que le modèle des familles a changé. On a plus de familles monoparentales aujourd'hui. Les contraintes familiales sont là et donc on veut écrire ce projet périscolaire dans cette dimension. Sur le mercredi, sur les vacances, on veut marcher sur deux jambes. La première, c'est la culture. On en a un petit peu parlé, d'être en capacité de porter des actions culturelles très fortes dans le périscolaire et dans les écoles. Et le deuxième point, c'est le sport. Là aussi, de venir proposer aux clubs sportifs aujourd'hui présents sur le territoire, et notamment sur les vacances, que des éducateurs sportifs qui interviennent dans les clubs, on sait que ce sont souvent des métiers assez précaires, où on a besoin de travailler et on a besoin d'un volume horaire plus important, donc on sera en capacité de proposer un volume horaire, notamment sur les vacances. voilà, rapidement présenter notre façon de voir. Et on veut travailler aussi sur la question des rythmes scolaires, qui est extrêmement importante. 90% des villes de France ont choisi la semaine des 4 jours. Donc on veut réinterroger avec l'ensemble des acteurs l'opportunité de revenir à la semaine des 4 jours.
D'accord, merci pour votre réponse. Je vois que le temps file, mais je pose quand même une dernière question sur la dernière thématique. Il faudra répondre rapidement. C'est autour des enjeux écologiques, par exemple mobilité, rénovation thermique, etc. C'est central pour beaucoup d'habitants et d'habitantes à Brest. Quelles seraient vos priorités écologiques au niveau municipal? Voilà, ce sera notre dernière question.
Merci, il y en a beaucoup. Je crois qu'il y a une forme d'urgence et au-delà de la prise en considération, c'est d'abord de travailler sur la question des mobilités. Aujourd'hui, nous avons un réseau qui devient plus performant avec la ligne de tramway, avec le BHNS. C'est d'en tirer les conclusions. C'est de voir au bout de plusieurs mois de fonctionnement comment on peut l'adapter. Et nous voulons créer des liaisons transversales de transport en commun. Parce qu'aujourd'hui, le réseau est en étoile. On part d'un point et on arrive à la place de la Liberté et on a des correspondances. On veut créer des transversales entre les quartiers à partir des données disponibles. Les téléphones portables, aujourd'hui, permettent, en anonymisant les données, de voir quels sont tout simplement les circuits qu'on pourrait densifier, avec notamment des navettes électriques à certains endroits en boucle pour relier des points en fait, de cette étoile, de ce réseau en étoile. Deuxième volet, c'est la question des pistes cyclables qui méritent aujourd'hui un schéma performant entre les zones d'habitat et les grands lieux fréquentés. Je pense à la base navale, je pense à l'université, je pense à l'hôpital, de venir densifier le réseau de pistes cyclables. C'est aussi en matière, vous m'avez interrogé sur la rénovation énergétique, là pour le coup il y a beaucoup de travail puisque Brest est une ville reconstruite après-guerre avec pour le coup des questions autour de la performance énergétique qui se posent toutes au même moment, quasiment toutes au même moment. Et là, nous avons des quartiers entiers qui mériteraient d'être dans ce qu'on appelle l'ANRU, c'est le programme d'État de renouvellement urbain, et d'être en capacité de proposer et d'actionner Brest Métropole Habitat, qui est l'office HLM ici, sur de la rénovation thermique des logements. Juste un point qui est très important, on voit des locataires qui m'interrogent, en me signalant de façon très régulière que les mois d'hiver, la facture d'électricité et de chauffage est supérieure au prix du loyer lui-même. Et ce qui fait que ça engendre une plus grande précarité encore sur des publics qui sont eux-mêmes fragiles. Donc tout ça, on l'a à l'esprit. Et puis enfin, l'ultime point, je vais parler plus que les autres candidats, j'ai l'impression, c'est de travailler à des logiques de paysage, de biodiversité, de verdissement de la ville dans des proportions plus importantes, là aussi, en interrogeant les habitants et les riverains.
Merci beaucoup d'être venu au micro de Radio U, Monsieur Roudot. Et c'est déjà la fin de cette émission. Je laisse
merci
Maïwenn
beaucoup.
Merci beaucoup encore une fois du coup d'être venu avec nous ce soir. Merci à vous aussi les auditeurs et les auditrices de nous avoir écoutés sur la 101.1. On se retrouve demain pour la dernière quotidienne de la semaine. Salut.
Radio U.